Nous aimerions que les choses progressent dans ce monde, bien sûr, et aussi en nous-mêmes. Et donc nous voudrions chasser les choses mauvaises de notre vie. Mais ce n'est pas facile, et ce n'est facile pour personne, en fait. Le mal nous résiste. On le sait bien, on prend des bons vœux, et puis finalement, bien, les bonnes résolutions ne durent qu'un temps. Alors comment faire pour chasser de notre vie ce qui ne va pas ? Il me semble qu'on ne peut le faire qu'avec des attachements plus forts encore et plus vivants. Alors pour réfléchir à cette question, je vous propose de lire deux textes dans nos Écritures. D'abord le témoignage de Josué dans le livre éponyme, au chapitre 24, les 15 premiers versets. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses officiers, et ils se présentèrent tous devant Dieu. Josué dit à tout le peuple : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térah, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Ésaü. J'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séir, mais à Jacob et ses fils, ils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron et j'ai frappé l'Égypte parce que j'ai fait au milieu d'elle des prodiges. Puis je vous en ai fait sortir d'Égypte. J'ai fait sortir vos pères de l'Égypte et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères à la mer des joncs, avec des chars, avec des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et alors l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il amena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vraiment vu ce que j'ai fait contre l'Égypte. Et vous avez habité le désert pendant très longtemps. Je vous ai conduit alors au pays des Amoréens qui habitaient en Transjordanie, et ils combattirent contre vous. Je les ai livrés entre vos mains, vous avez pris possession de leur pays, et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit contre Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Bor, pour vous maudire, mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Et ce fut une bénédiction qu'il prononça sur vous, et je vous ai délivré de la main de Balak. Vous avez passé le Jourdain, et vous êtes arrivé à Jéricho. Les maîtres de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hittites, les Guéraziens, les Héviens, les Yébousiens. Et je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face. Ces deux rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Mais moi, je vous ai donné un pays où vous n'avez pas peiné. Je vous ai donné des villes que vous n'avez pas bâties et que vous habitez. Je vous ai donné des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés et dont vous vous nourrissez. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas choisir de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors ensuite, je voudrais vous lire dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 12, comment Jésus nous propose de chasser ce qui ne va pas de notre existence. Matthieu 12, à partir du verset 38. Quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe, un miracle de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère recherche un miracle, il ne lui en sera pas donné d'autre que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, et les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront, parce que eux se sont convertis à la prédication de Jonas, et voici, il y a plus que Jonas. Et la reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, « Eh bien, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, bien balayée, toute ornée. Il s'en va alors et il prend avec lui 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour laisser résonner en nous ces paroles de l'Écriture, je vous propose de chanter dans le psautier français toujours le psaume 62, la version B, 62B de ce psaume, les 3 premières strophes. « En toi, mon Dieu, toi seulement, j'ai trouvé l'apaisement. » Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite, qui éclaircisse nos voies, qui libère nos conversations, qui nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde, et les yeux soudain levés, oui, vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas terminé. Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurés, dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps et de notre monde. Alors dans ce texte des évangiles, il est question d'esprit mauvais, d'esprit méchant. Il ne s'agit pas d'une sorte de créature invisible, mystérieuse, peut-être avec des pieds fourchus et puis une fourche piquante, qui nous infecterait ou qui infecterait le monde comme un envoûtement ou je ne sais quoi. Ces esprits méchants et mauvais, c'est une façon de parler de ce qui ne va pas dans le monde et en nous-mêmes, dans notre vie, comme de quelque chose de vivant qui nous résiste et qui nous fait du mal. Les esprits mauvais, en réalité, c'est une dimension de nous-mêmes, bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils sont si difficiles à chasser, car tout progrès est de l'ordre de la guérison, de la croissance, de la naissance ou même de la résurrection. La question n'est donc pas de faire des exorcismes pour chasser les esprits méchants, comme si c'était un travail de l'extérieur avec une formule magique qui pouvait régler le problème. Mais la question, c'est de progresser. Ce n'est donc pas un travail qui peut être fait de l'extérieur comme par un coup de baguette magique d'un exorciste. Mais Dieu lui-même ne peut pas nous faire avancer dans notre existence sans notre participation. Et donc cela demande un vrai travail au cœur de nous-mêmes, pas un geste magique d'un charlatan qui, en général, profite pour vous piquer votre portefeuille. Les esprits méchants sont une part de nous-mêmes, en fait. Ce sont nos faiblesses, c'est celles, les faiblesses de l'humanité, finalement. Elles viennent parfois de blessures anciennes, qui viennent parfois de plusieurs générations en amont. Parfois, c'est un travers que nous avons, un mauvais pli qui a été pris. Parfois, c'est simplement un manque de développement, un manque de réflexion, un manque de sagesse, un manque de croissance. Il n'existe pas d'autres démons dans notre existence, en ce monde, que cela, finalement. Que cela qui nous habite, en fait, réellement. Et je crois que ce n'est pas bon de laisser croire, ou encore pire, de faire croire à des gens ces fables avec des créatures invisibles qui nous infecteraient. Une vraie libération ne peut venir qu'avec un travail en profondeur de la personne elle-même, ou avec la personne elle-même. Et pour notre société également, de toute façon, elle ne changera pas avec une prière magique ou avec un seul homme qui ferait je sais quoi, mais avec une prise des consciences des individus qui peut venir d'un seul homme, oui, mais avec une force de conviction qui nous travaille de l'intérieur. Donc oui, le salut, c'est d'avoir des convictions, je crois, avec une foi ou une recherche plus forte que le mal, qu'il y ait une pression plus grande dans un sens que celle qui nous est opposée. Il est bon de regarder avec clairvoyance et bienveillance à l'intérieur de nous-mêmes pour y reconnaître les causes mêmes de notre souffrance et de nos troubles. Alors si on personnifie ce mal dans des personnages mythologiques, des diables, des démons, des esprits mauvais, des envoûtements, cela n'aide pas à la clairvoyance, cela n'aide pas à reconnaître ce qui nous empêche en réalité d'avancer, nous personnellement et l'humanité. Et puis quelle image de Dieu ça donnerait finalement que d'imaginer qu'il laisserait agir de telles créatures purement mauvaises, c'est pas possible. Et pourtant, oui, pourtant, nous avons mauvais esprit, en partie, nous ne sommes pas que cela, mais nous avons des mauvais travers que nous aimerions éliminer, des esprits qui nous animent et qui nous font du mal ou qui nous conduisent à faire du mal, qui sont infidèles à la vie, au bien et à ce que nous pourrions être. Alors nous voudrions nous débarrasser de ces mauvais esprits, de ce mal, mais comment faire? Jésus nous met en garde, mais nous le savons bien. C'est dangereux de mettre la charrue avant les bœufs. Et voulant bien faire, une fois que nous avons identifié le problème, nous voulons le chasser avec un effort de bonne volonté, comme on prend une bonne résolution de nouvel an, et avec parfois avec un certain succès, nous dit Jésus en fait, mais de courte durée en général. L'esprit mauvais s'en va, mais il revient un peu après avec sept autres encore plus méchants que lui, et notre condition est pire. Là encore, bien sûr, le langage de Jésus est imagé et l'on comprend bien ce qu'il veut dire quand il compare l'homme qui a chassé temporairement quelque chose, un de ses mauvais démons, à une maison vidée, balayée et bien ornée. Le nettoyage par le vide n'est pas, en fait, une bonne méthode. Même si le ménage est bien fait à fond, ne laissant pas une miette de l'ancien levain de méchanceté, allant même jusqu'à bien enjoliver notre intérieur, lui donner un aspect pimpant, joyeux, agréable, ça ne marche pas, bien au contraire. On ne peut pas faire l'économie de reconstruire quelque chose de bien et de plus fort au milieu, et alors ce qui est mal, ce qui est mauvais, va tomber par lui-même, ou alors on pourra l'enlever, voilà, plus facilement. On ne guérit pas des mauvaises choses par le vide, mais par le plein. On ne peut chasser nos mauvais démons qu'avec des attachements encore plus forts et encore plus meilleurs. Et alors seulement les mauvaises choses qui nous tirent vers le bas pourront être facilement éliminées, chassées hors de nous-mêmes. Et Jésus nous montre deux exemples, ce qui nous laisse le choix finalement, en fonction de là où nous sommes, en fonction de ce que nous choisissons, pour nous donner des pistes pour avancer. Il évoque d'abord les Ninivites de l'histoire de Jonas. Alors le thème de cette histoire de Jonas est la même en fait que celle de cette parabole de Jésus. La question est de savoir comment guérir de nos mauvais penchants. En effet, le livre de Jonas présente les Ninivites, qui est l'archétype de la pire des cités pécheresses dans la Bible. Et il nous dit que la ville de Ninive est pleine de méchanceté, de violence et d'infidélité, exactement comme l'esprit mauvais dont parle Jésus ici, en fait. Et il ajoute que les Ninivites, ils nous invitent à la conversion. Alors certaines traductions mettent qu'ils nous invitent à la repentance, mais là encore, c'est très moraliste et ça ferait penser qu'il faudrait seulement essayer de balayer les mauvais comportements de notre existence, les esprits de méchanceté qui sont en nous. Mais dans le texte, les Ninivites, ils nous appellent en fait à la conversion, c'est-à-dire à un changement d'orientation, un changement de notre regard, de notre visée en fait. Et cela n'est possible que si l'on a précisément une certaine visée dans notre existence, si l'on a un système de conviction fort, pas simplement de vagues principes ou d'une croyance en quelque chose, mais ce n'est possible de se tourner, de se convertir, donc, que si cette visée nous oriente, si elle tourne non seulement notre regard un peu du coin de l'œil, vaguement, mais déjà si ça oriente notre tête, si ça fait tourner nos épaules, si notre corps est comme déjà tendu vers une direction que nous avons choisie. Alors oui, il peut y avoir ce miracle de Jonas. Jonas lui-même était entraîné dans sa propre méchanceté, dans sa propre infidélité, dans une spirale descendante vers le vide, vers le néant, vers le chaos finalement. Mais par son attachement au Dieu de bonté et de vie, même au plus bas, il va finalement pouvoir vivre et pouvoir aider les autres à vivre. Eh bien, c'est le même miracle que vivent ensuite les Ninivites. Et c'est ce même miracle qui nous est donné, nous dit Jésus-Christ. Et ce n'est vraiment pas rien. C'est le miracle d'être délivré de nos démons intérieurs. Progressivement, sans doute, un par un peut-être, parfois, oui, peu à peu, comme on remonte du fond de l'abîme, mais un miracle, oui. Le deuxième exemple que nous donne Jésus est celui de la reine de Saba, qui est venue, nous dit-il, des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et donc, si nous n'avons pas encore la foi de Jonas, capable de prier Dieu du fond de l'abîme, des entrailles du Léviathan, si nous n'avons pas le début de foi des Ninivites, nous pouvons au moins nous mettre en mouvement à la recherche de la sagesse, comme le fait la reine du Midi. Et cela, tout le monde peut le faire quand même. D'autant plus que, d'après ce que nous dit Jésus, il ne s'agit même pas de la part de la reine de Saba d'avoir compris ce que raconte Salomon, ni même d'avoir accepté, intégré la façon de penser de Salomon. Ce que Jésus montre en exemple dans cette femme, c'est le fait de chercher à entendre. Ce qui est salutaire, c'est de se mettre en marche, de sortir de chez soi, de se mettre en mouvement, de s'ouvrir dans une démarche, oui, de progrès positif, une recherche de Dieu comme avec Jonas, mais au moins une recherche de sagesse, au moins un peu de philosophie. Et dans le genre, à mon avis, Les philosophies bibliques me semblent vraiment pas mal du tout. C'est le moins qu'on puisse dire, particulièrement la synthèse qu'en donne Jésus-Christ dans l'Évangile. Mais bon, c'est effectivement une question de choix, et le minimum vital, nous dit Jésus, c'est d'avoir au moins une recherche personnelle de sagesse, et que cette recherche soit engagée, et même un peu militante, pas simplement d'une manière dilettante. Une recherche de Dieu, ou au moins une recherche de sagesse supérieure, cela soigne notre mal à la racine, en profondeur. C'est un travail sur la qualité d'être, un travail sur la dynamique de notre évolution. Le progrès passe par un supplément de bien, comme souvent en fait, par des attachements plus forts et plus vrais. Ce qui est pourri en nous, eh bien, pourra être enlevé plus tard ou tombera tout seul. Et dans ce sens, je suis optimiste pour l'humanité en ce début d'année 2012. Malgré les terribles crises, malgré les tensions, malgré la montée des intégrismes, des communautarismes divers, j'ai sincèrement l'impression qu'il y a aujourd'hui un poil plus de profondeur de pensée qu'hier. Certes, il y a une crise écologique préoccupante, mais justement, au moins, nous commençons à nous en préoccuper. Certes, il y a une crise économique, mais au moins, nous commençons à nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls au monde, que d'autres sont moins bien lotis que nous et qu'ils auraient le droit d'avoir un peu de meilleures conditions de vie, que ce serait justice. Que d'autres générations nous suivent et que ce n'est peut-être pas génial de nous goinfrer tranquillement en faisant payer la note aux générations suivantes. Bref, il y a une prise de conscience. Et je suis également optimiste car très souvent, chaque semaine en fait, nous rencontrons, mon collègue et moi-même, nous rencontrons des personnes qui, comme la reine de Saba, se mettent en route de loin, parfois de très très loin, pour aller chercher dans la Bible une sagesse supérieure, ou pour chercher, comme les Ninivites, à se tourner vers Dieu, porter un regard sur un Dieu qu'elles ne connaissent pas encore en fait, mais pour que ça les aide à faire face à leurs propres travers. Nous ne sommes plus alors dans une intériorité vide, balayée, bien ornée. Nous ne sommes plus dans la seule légèreté, l'insouciance, ni dans un moralisme aliénant en fait, mais dans une recherche pour une plus grande authenticité de vie. Et ça, c'est prometteur. Ce miracle-là nous sera donné de voir reculer nos esprits méchants et infidèles quand nous ouvrons notre intériorité la plus profonde, notre maison, notre demeure, là où nous demeurons, par attachement à une vraie démarche, une vraie recherche. Déjà Josué proposait « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Personne, nous disait Josué, n'est obligé de choisir de rechercher l'Éternel Dieu. Déjà à l'époque, il avait cette ouverture et je crois que c'est bien de l'avoir. On peut choisir d'autres orientations, mais au moins, il faut s'engager, il faut choisir un attachement supérieur, avoir foi en quelque chose. Et Jésus ajoute que cet attachement doit être fait dans la sincérité et dans la fidélité. Pas juste une petite décoration pour orner notre vie d'intérieur, mais un véritable attachement qui nous ouvre à une dynamique. Et Josué ajoute, faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il explique pourquoi en fait. C'est que ce Dieu fait des miracles. Il y a de toute façon quelque chose, je crois, d'intéressant dans le fait de choisir la foi qui nous oriente, au moins une philosophie de vie comme la reine de Saba. Mais Josué montre qu'il y a en Dieu plus qu'une philosophie. Il est source d'une évolution qui nous dépasse infiniment. Josué dit que ce ne sont pas seulement là une belle idée, ce Dieu qui pourrait faire des miracles dans notre vie, ou que ce ne sont pas simplement de belles promesses pour nous faire rêver d'un monde futur, mais que c'est un fait d'expérience dans cette vie, expérience partagée par une foule innombrable de témoins en fait. Oui, l'Éternel Dieu, le Créateur, est source en nous de miracles. Mais même cette puissance qu'a l'Éternel pour nous aider, Ça ne marche que si la personne le choisit personnellement, si elle s'y investit, non seulement par son regard, mais par sa maison tout entière, comme nous le dit Josué, au sens où Jésus comparait la maison vide ou habitée à notre intérieur, là où demeure le cœur même de notre être, le cœur qui abrite notre moi intime, notre dynamique de vie. Josué nous propose donc de choisir personnellement de s'engager à la suite de l'Éternel, et il montre que ce n'est pas obligatoire, qu'il y a d'autres options possibles, mais il témoigne du choix qu'il fait lui, et il dit pourquoi, que c'est un bon choix car l'Éternel est vivant, qu'il est plus qu'une bonne philosophie, il est un principe actif qui nous donne tant de bonnes choses par grâce, nous dit Josué. Alors il nous donne des exemples dans l'histoire biblique. Il nous dit que l'Éternel nous donne d'être mis en route comme Abraham, qu'il nous donne d'avoir une fécondité de vie, qu'il nous donne d'être libérés de ce qui nous enchaînait, du matérialisme qu'évoque l'Égypte dans la langue biblique, qu'il nous donne un espace pour vivre, un espace à nous, un chez nous, une patrie finalement, où nous sommes en paix. Il nous donne ainsi une dignité, pourrait-on dire. Il nous donne une vie évoquée par la vigne féconde. Il nous donne la sagesse qu'évoque le fruit de la vigne, du figuier. Alors bien entendu, nous ne pouvons pas lire ce récit à la lettre comme si ce Dieu chassait des peuples de la terre devant nous pour que nous puissions profiter de leur terre, de leur maison, de leur vigne et de leur figuier. C'est spirituellement, bien sûr, que nous lisons ce texte où Dieu, effectivement, nous débarrasse de ce qui nous tuait, c'est-à-dire de l'Égyptien qui est en nous, de son matérialisme. Et puis c'est Dieu, c'est sa façon d'espérer et d'être. C'est une part de nous-mêmes, donc, les Égyptiens que Dieu noie sous la mer avec le Pharaon. Et les Ammonites, c'est une part de nous-mêmes aussi, une part d'infidélité, une part de tout ce qu'évoque de mauvais et de méchant, cet archétype que représentent les Ammonites. Alors et alors seulement nous pourrons faire disparaître, oui, avec ces dons de Dieu, nous pourrons faire disparaître ces dieux qui nous aliénaient, nos esprits de méchanceté et d'infidélité qui nous menaient par le bout du nez, et les faux dieux, oui, qui venaient de vos pères, nous dit Josué, qui étaient de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire les mauvaises adorations des générations passées, de notre passé, et aussi bien les faux dieux qui sont dans notre présent, dans cette terre où vous habitez, nous dit Josué. Oui, les dieux anciens et les dieux présents, toutes ces idoles qui nous encombrent et nous tuent. Nous le savons très bien, ni ces dons qu'évoque ici Josué, ni ces libérations, ni ces fécondités, ni cette force contre le mal, rien de tout cela n'est facile à conquérir à la seule force de notre volonté ou de notre intelligence. Même la solidarité humaine peine à nous faire quelques progrès dans ce domaine qui nous fera donc avancer. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen.